Élection municipale 2020 sur Intensité.
Bonsoir à tous. Le second tour des municipales, ce sera dimanche. La campagne, elle, en attendant, se poursuit tant bien que mal. Après Arroux, hier soir, place un nouveau débat ce soir sur Intensité. Zoom sur la ville de Lucé, où il y a une triangulaire avec Emmanuel Lecomte, maire sortant, tête de liste toujours ensemble pour Lucé. Florent Gauthier, qui conduit la liste pour l'avenir de Lucé. Puis Éric Lacroix du Rassemblement National, tête de liste Lucé autrement.
Ludovic Ravaillot.
Bonsoir à tous, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour échanger donc sur vos propositions, avant de vous écouter, je vous propose une petite présentation et un retour sur ce premier tour des municipales à Lucé. C'est avec Julie Durand.
Après Chartres et Dreux, Lucé est la troisième ville du département avec plus de 15 400 habitants. La population est assez jeune, la tranche d'âge des 25-29 ans est la plus importante et représente plus de 1200 personnes. Au cœur des débats, l'attractivité de la ville, les commerces, les équipements, la sécurité, la solidarité ou encore l'environnement. Pour le second tour des municipales, dimanche, les Lucéens auront le choix entre trois candidats. Emmanuel Lecomte, le maire sortant avec sa liste Toujours Ensemble pour Lucé, qui est arrivé en tête le 15 mars dernier avec 44,09% des voix. Avec seulement 208 bulletins de moins, Florent Gauthier, tête de liste pour l'avenir de Lucé. Et puis le Rassemblement National est présent. Éric Lacroix, avec sa liste Lucé autrement, a réuni 12,41% des suffrages. Sachez que Nicole Masse du POID et Frédéric Bastien de LO, qui ont fait moins de 5%, n'ont pas pu se maintenir. Mais avec seulement 34,37% de votants, l'abstention reste la grande gagnante lors du premier tour et crée une grande incertitude pour ce dimanche. Malgré une campagne perturbée par la crise sanitaire, les trois candidats affichent leurs différences et défendent leur projet pour la ville.
Et une campagne particulière, sans grande réunion publique et avec des rencontres à bonne distance. Il a fallu donc se réinventer pour cette campagne, pour ce second tour, en passant notamment par Internet, une nouvelle façon de communiquer qui dérange certains habitants. Écoutez le témoignage de Dominique, rencontré dans les rues lycéennes.
C'est vrai que ce huis clos de campagne, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai vu un des candidats qui faisait sa campagne sur les réseaux sociaux, mais moi, désolé, je suis pas sur les réseaux sociaux. C'est plus compliqué pour s'informer, pour avoir les programmes, les idées de chacun des candidats.
On va faire un tour de table sur cette campagne si particulière au début de l'été. Comment ça se passe pour vous, Emmanuel Lecomte? Comment vous faites cette campagne pour le second tour?
Écoutez, effectivement, il y avait une dynamique par rapport au 15 mars. Et puis brutalement, on apprend que la campagne est suspendue eu égard au confinement. Donc derrière, il a fallu gérer la crise en tant que maire en exercice et non plus en tant que candidat. Ensuite, il y a le déconfinement et on apprend que les élections finalement ont lieu le 28 juin. À notre grande surprise, on s'attendait plutôt à une élection au mois de septembre ou octobre, voire un report complet au mois de janvier. Donc il faut se remettre dans le bain les uns les autres. Vous imaginez, ne serait-ce que déjà pour les habitants, c'est pas évident, mais même également pour nous, candidats, il faut se replonger dans la dynamique de la campagne. Donc effectivement, on nous a interdit de tracter. Donc en fait, comment ça se passe? On continue effectivement à aller sur le terrain et rencontrer les gens, mais il n'y a plus de réunion publique. On respecte la notion de 10 personnes, etc., distanciation sociale. Effectivement, on développe Facebook. Ça, rien de nouveau, on l'avait déjà fait, mais également, on a développé une chaîne YouTube.
C'est accentué, oui.
Où là, effectivement, on reprend tous les items et on les développe, et en gros, sur une durée d'une minute trente, deux minutes. Donc en fait, il faut s'adapter. C'est une campagne assez bizarre, effectivement.
Florent Gauthier, c'est pareil, c'est une campagne difficile, ce second tour.
C'est assez étonnant comme campagne. En effet, on était parti sur une dynamique, on avait prévu des réunions pour le second tour, et puis tout est remis en cause. Donc aujourd'hui, en effet, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est bien sûr utiliser les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, pour pouvoir présenter notre programme. Bon, il y a aussi la possibilité de boiter, donc l'ensemble des lycéens ont pu recevoir nos tracts dans leur boîte aux lettres. Et puis, tout en respectant les règles sanitaires et les règles de distanciation sociale, il faut aussi aller vers les lycéens. Donc ça aussi, c'est un enjeu parce que les lycéens attendent aussi la disponibilité, l'accessibilité en fait de la part de leurs élus. Et donc c'est ce que l'on essaye de faire, encore une fois, tout en veillant drastiquement aux règles sanitaires et aux règles de distanciation.
Éric Lacroix, un mot également sur cette campagne. Comment ça se passe pour vous?
Disons, je il y a eu cette période de pandémie qui a débuté, donc je me suis inscrit dans une idée de trêve. Je pense que les lycéens avaient plus de soucis par rapport à leur état de santé, à se protéger vis-à-vis de cette pandémie, vis-à-vis de leurs proches. J'ai souhaité à ce moment-là ne rien poursuivre. Je me suis désengagé sur le terrain, on n'a pas communiqué, on a fait un peu de publication sur Facebook. Moi, je me suis personnellement engagé auprès de la réserve sanitaire et je me suis mis à disposition de l'ARS Centre-Val de Loire parce que je pense qu'à ce moment-là, la priorité, c'était venir en aide. Tout ce qui était politique, c'était en croix. Aujourd'hui, on est reparti dans une façon qui était déjà la façon initiale de travailler. Je ne suis pas pour les réunions publiques. Je n'ai pas fait de réunion publique. Pourquoi aujourd'hui, les gens ont du mal à se déplacer? Le porte-à-porte, je n'ai pas fait de porte-à-porte lors du premier tour et j'en aurais pas fait lors du second tour. Je considère que le porte-à-porte, c'est quelque chose d'intrusif. Aujourd'hui, les gens sont tous les jours embêtés dans leur vie quotidienne, dans leur foyer familial, par des intrusions soit téléphoniques, des démarchages sur Internet ou carrément du porte-à-porte. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi peut-être laisser venir les lycéens en direction des candidats. On leur a donné tous les moyens, que ce soit les numéros de téléphone portable, les adresses courriels, les différents sites. Ils ont eu la possibilité de démarcher les candidats, de leur poser des questions. Et je crois que c'est une méthode qui aujourd'hui est une méthode dans l'air du temps.
Et la campagne donc est relancée pour ce second tour. La majorité des habitants de Lucé que nous avons rencontrés sont pourtant donc prêts à aller voter pour ce deuxième tour. La crise sanitaire ne les a pas fait changer d'avis.
Ah non, ça m'empêchera pas d'aller voter. Je vais pas changer mon opinion, je vais voter.
Ah je vais aller voter quand même. On a le droit de vote, faut quand même. Il y a plein de pays qui ont pas le droit, nous il y a le droit, faut pas de problème.
Ça change rien pour nous. On mettra un masque et puis voilà.
Tant que des mesures sont prises, je pense qu'elles vont être prises. Il n'y a pas de problème, quoi.
J'y suis allée la première fois, donc oui, la deuxième fois, j'irai aussi. Il suffit de se protéger.
Alors, même si des électeurs que nous avons rencontrés sont motivés pour se déplacer dans les bureaux de vote dimanche, on le rappelait lors de la présentation, l'abstention a été élevée au premier tour, plus de 65% à Lucé. Ça signifie qu'un peu plus d'un tiers de votants seulement s'est déplacé. On l'a vu avec un écart de voix assez court, 200 bulletins entre Emmanuel Lecomte et Florent Gauthier. Florent Gauthier, justement, vous êtes inquiet par rapport à cette participation?
Bah écoutez, enfin c'est tout à fait normal lorsque l'on voit, en fait, il faut se rappeler sur le moment des annonces qui avaient été faites, c'est-à-dire qu'on maintient un premier tour et puis quelques jours avant, en fait, on déclare que nous sommes en situation de guerre sanitaire. Donc faut pas s'étonner. Enfin moi je comprends tout à fait les lycéens qui ont préféré rester chez eux par mesure de sécurité. Et ce qui a suivi, il faut se rappeler que notre département a été quand même sévèrement touché, un des plus touchés en fait de la région. Donc ce qui prouve que la défaillance en fait des autorités a abouti aussi à cela. Ce que l'on espère, c'est que en effet que les personnes puissent se déplacer. Nous faisons confiance en fait à l'ensemble des agents pour pouvoir prévoir l'ensemble des mesures sanitaires nécessaires. Et on espère aussi que les lycéens vont se déplacer pour exercer ce droit qui est un droit fondamental.
Et on l'a entendu. Emmanuel Lecomte, les résultats de l'élection peut-être complètement différents selon la participation.
Ah, c'est clair. Moins il y a de votants, plus le risque est élevé qu'on ait une surprise. Moi, je repense toujours à 2001 où un outsider, pas forcément désiré, un apprenti sorcier, avait gagné les élections de 19 voix. Et ensuite, il y avait un incendie financier qui avait été allumé dans la commune entre 2001 et 2008. Et ensuite, nous sommes là depuis maintenant 12 ans. Nous avons mis 12 ans à éteindre l'incendie. Donc, attention, effectivement, la démocratie a un prix. Et comme disait Monsieur Gauthier, quand on vous annonce à 19h le samedi que tous les restaurants, que tous les bars doivent fermer impérativement à minuit, alors qu'il y a une élection le lendemain, vous imaginez bien que la dynamique des gens qui étaient quand même malgré tout prêts à aller voter, ça les a bloqués. Moi je me souviens, j'ai appris de la nouvelle, j'étais dans ma voiture, vers 22h30 ou 23h, et j'entends ça à la radio, je dis ok, demain la participation...
Et vous êtes inquiet pour ce dimanche?
Oui, parce que, alors, on rencontre des gens, et puis d'ailleurs, votre micro-trottoir l'a quand même confirmé, les gens ont envie d'aller voter. Maintenant, nous, communes, on va mettre à disposition tout ce qu'il faut, hein, c'est-à-dire qu'il y aura du gel, il y aura masque, il y aura visière. On va même mettre des masques aux gens qui n'en auront pas quand ils vont arriver dans les bureaux de vote. Il va y avoir la distanciation sociale. Les isoloirs vont être tournés, donc les gens n'auront plus à toucher au rideau. Les isoloirs vont être séparés, il va y avoir également la distanciation sociale. Les assesseurs, qui seront tous des fonctionnaires, ne prendront pas les cartes d'identité. Il y aura juste une vérification à distance de l'identité de la personne. La carte, quand on doit tamponner, il n'y a plus d'obligation de la tamponner. Et même si c'est le cas, il y a juste à la poser et la personne impose son tampon. Enfin, tout est fait, si vous voulez, pour que ça soit le maximum sécure. Mais d'ailleurs, nous, le 15 mars, ça s'est très bien passé, puisque sur les 180 assesseurs, aucun n'a été malade. Donc on a déjà appliqué les mesures de sécurité idoine.
Éric Lacroix, vous avez tout juste atteint le second tour, 750 voix d'écart environ avec Florent Gauthier, malgré une faible participation. Vous avez du retard. Comment mobiliser encore plus dans un contexte difficile comme celui-ci?
Alors, il est certain qu'au niveau national, les candidats du Rassemblement National ont tous eu, dans toutes les villes de France, du retard. On a notre électorat qui ne s'est pas déplacé. Moi, j'ai eu des appels de gens qui sont des adhérents du Rassemblement National qui m'ont dit que malheureusement, ils ne pouvaient pas prendre le risque. Ils étaient soit immunodéprimés ou ils avaient des enfants dans une situation de fragilité. J'ai l'un de mes délégués qui n'a pas pu se présenter dans son bureau. Pourquoi ? Parce que c'était pas possible au niveau de la santé de sa famille. J'ai même décidé de modifier le tir puisque il y a d'autres délégués qui vont remplacer ces délégués qui étaient ou qui sont en situation de fragilité. Je reconnais effectivement que Monsieur Lecomte a pris toutes les mesures nécessaires, à part un bureau de vote où la porte, il fallait manipuler la clenche pour pouvoir rentrer, mais autrement, l'accès était très très bien sécurisé.
Merci.
J'appartiens au service de santé des armées aussi, donc je suis particulièrement vigilant par rapport à ça. Je l'ai fait remarquer à l'un de vos responsables de bureau, de président de bureau. Pourquoi ? Parce que il y a des petits détails comme ça qui peuvent poser problème. Alors moi, je suis parfaitement conscient que on a fait le nécessaire, on a contacté les gens, on leur a proposé des procurations, à savoir que maintenant, chaque personne peut être détentrice de deux procurations, donc il faut jouer là-dessus. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. C'est vrai que certaines informations qui circulent à l'étranger ou même dans certains départements en France sont relativement anxiogènes. Aujourd'hui, ça peut avoir une influence.
Et on suivra sur Intensité, bien sûr, cette journée, ce second tour dimanche. On va à présent voir quelques-uns de vos différents projets, aussi la manière de mettre en place votre politique. Si vous êtes élu, Éric Lacroix, justement, vous souhaitez donner le pouvoir aux Lucéens, c'est écrit dans votre bulletin. Mais les électeurs n'ont pas déjà le pouvoir en choisissant leur équipe municipale dimanche.
Je pense qu'il faut en rajouter. Moi, j'ai participé à certaines actions sur certains ronds-points. Et la demande légitime de la plupart des citoyens qui étaient présents, c'est d'être consultés davantage, c'est-à-dire par forme de référendum, par différents types de consultations. Aujourd'hui, une fois qu'une équipe est élue, pendant la mandature, elle fait son travail par rapport au programme sur lequel elle s'est engagée ou sur certains éléments de son programme. Certains oublient carrément leur programme. Je crois qu'aujourd'hui, pour des questions importantes, aussi bien au niveau de tout ce qui peut impacter l'urbanisme, il faut consulter la population. Et c'est fondamental.
Et vous souhaitez donc créer un conseil de 30 citoyens.
Tout à fait.
Pour suivre, qui sera fait par la municipalité, en fait.
Tout à fait. Qui auront mission pendant une période d'un an de pouvoir s'exprimer à la place des élus et de faire remonter des informations.
Florent Gauthier, vous souhaitez vous changer radicalement la méthode employée depuis 12 ans. Est-ce que vous voulez vous aussi un conseil de citoyens? Qu'est-ce que vous souhaitez faire si vous êtes élu?
Nous, en effet, en fait, ce que l'on souhaite, c'est mettre la concertation avec l'ensemble des acteurs qui font vivre notre ville, hein, que ça soit éducatif, associatif, même les commerces et les Lucéens en général, associés par la concertation et faire de la concertation la méthode centrale de décision. Comment, en fait, ce que nous voulons, c'est, et d'ailleurs c'est ce que demandent les Lucéens aujourd'hui lorsque nous discutons avec eux, c'est d'avoir une disponibilité et d'être associés aux décisions. Et dans ce cadre, nous considérons que pour être responsable de la gestion d'une ville, il faut aussi savoir rendre compte. C'est pour cela qu'on envisage d'avoir des élus de quartier et notamment de faire des réunions de quartier de façon récurrente. On envisage de chaque année, en fait, de rendre compte publiquement sur l'ensemble des actions qui ont été mises en place l'année passée, mais aussi de présenter les actions futures pour pouvoir répondre aux questions sans nous défausser à tous les Lucéens. Donc on les conviera, en fait, à ces réunions. Et puis ce que l'on veut aussi, c'est que pour nous, être élu, être maire, c'est faire des propositions adaptées, concertées et réalisables. Et ne pour que des décisions soient adaptées, eh bien, il faut se concerter. C'est-à-dire que lorsque l'on s'engage sur des infrastructures, que ce soit par exemple un gymnase, eh bien, il faut discuter, échanger avec les associations qui vont effectivement l'utiliser. On va pas construire un terrain de foot sans consulter et associer les clubs de foot de l'UC, de la même façon qu'on ne va pas, enfin qu'il faut associer aussi l'ensemble des habitants, des riverains, dès lors qu'on prévoit un aménagement urbain ou qu'on prévoit un projet d'urbanisme conséquent dans la zone où ceux-ci habitent. Donc c'est la concertation en fait que l'on veut comme méthode centrale de décision. C'est pour cela que l'on mentionne en fait cette volonté de changer de méthode.
Emmanuel Lecomte, est-ce que vous changerez, vous, de méthode? Est-ce que le maire a besoin de reconsulter notamment la population après avoir été élu sur certains projets?
Dans le cadre des élections, effectivement, on a un programme et on a une feuille de route. On est élu sur cette feuille de route. D'ailleurs, nous sommes en fonction pour accomplir cette mission pendant 6 ans. Ensuite, on passe, sous les teignes noires tous les 6 ans. C'est-à-dire que les électeurs vous jugent par rapport à ce que vous avez fait ou pas fait et vos engagements tenus ou pas tenus. Donc nous avons été réélus en 2014, c'est que ça s'était bien déjà passé sur la période 2008-2014. En termes de concertation, je suis un peu surpris par le discours que j'entends, parce que cette concertation existe déjà. J'en veux pour preuve, par exemple, vous parliez du sport, Monsieur Gauthier, tout à l'heure, le terrain synthétique que nous avons mis en place, qui est ouvert il y a 6 mois sur les pissentiers, nous avons échangé avec les deux clubs de foot, que sont l'amical de l'UC Football et le Football Club de l'UC West. Sur le projet de poumon vert...
C'est pas ce qu'ils disent.
Attendez, je vous ai pas interrompu, Monsieur Gauthier. Un peu de respect, s'il vous plaît. Sur le poumon vert dont nous évoquions, nous, l'existence depuis maintenant quelques années, à savoir sur le stade Richoux, nous avons également échangé avec le FCLO, j'ai encore échangé pas plus tard qu'avec une personne du bureau ce dimanche sur le marché, entre autres, mais également avec les gens du basket, avec l'UC Sport Gym, puisqu'ils sont concernés. Il n'y a pas que une association, il y a X associations. Donc on échange, on a déjà fait des réunions de quartier. Alors certes, on n'en fait pas tous les 3 mois, hein. Il faut aussi qu'il y ait une thématique intéressante et que les gens viennent en nombre. Moi, je me souviens, il y a quelques années, une réunion de quartier où il y avait plus d'élus que de personnes dans la salle, et il y avait 4 journalistes ou pigistes. Donc les gens ont un certain discours, encore faut-il aussi se déplacer. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont tendance à vouloir rester dans leur secteur, un peu le principe du drive aussi, et faut venir faire des réunions, j'allais dire, au bas de l'immeuble. Oui, mais attendez, en plein hiver, on fait des réunions dans les salles, et à l'UC, c'est au Centre culturel des Noms des Ouches, ou à la ferme pédagogique des Carreaux. Donc voilà, il faut aussi faire l'effort de se déplacer. Mais la concertation existe, et de toute façon, elle existe de facto, nous sommes dans une démocratie.
Et on va poursuivre ce débat et voir justement un petit peu vos différences et les projets que vous souhaitez développer. Lucie, on va juste faire une petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. À tout de suite.
Élections municipales 2020. Le grand débat en direct sur Intensité. Élections municipales 2020 sur Intensité. Ludovic Rabaillot.
19h25 sur Intensité en direct. Bienvenue. La suite du débat des municipales concernant la ville de l'UC avec les 3 candidats autour de la table ce soir. Emmanuel Lecomte, Florent Gauthier et Éric Lacroix. Alors, on va parler de la crise et après, est-ce que la crise sanitaire qui semble être derrière nous a changé quelque chose dans vos idées, vos programmes pour les municipales? Un exemple avec Jessie, habitant de l'UC, qui a, comme nous tous, hein, beaucoup utilisé Internet, notamment pour le télétravail.
Moi, j'habite dans un ancien quartier, j'attends toujours la fibre, et ça c'est important parce que j'ai un réseau qui est vraiment très lent.
Une réponse, Emmanuel Lecomte, a porté par exemple à
effectivement, la fibre optique devait être terminée d'installation sur l'UC fin juin, début juillet, puisqu'en fait c'est Semin, une filiale de Chartres Métropole, qui développe la fibre sur l'agglomération, puisque c'est Chartres Métropole qui est en compétence. C'était un plan sur 4 ans. Qui était plus rapide que prévu. Et donc, je vous dis, ça devait être terminé la fin juin, début juillet. Et là, vous reportez l'effet Covid. Et globalement, fin septembre, début octobre, la fibre sera partout à l'UC.
Alors, Internet, hein, on a beaucoup utilisé effectivement pendant cette crise. Est-ce que ça a modifié certaines de vos idées au projet, cette crise sanitaire?
Écoutez, effectivement, il faut développer des outils informatiques idoines pour travailler à distance. Je pense que ça fait partie un peu du futur dans le monde du travail. Maintenant, on parle de monde d'après, je mets des guillemets parce que sur le coup, tout le monde est un peu dans l'émotionnel et finalement, on se rend compte que les gens reprennent vite des habitudes. Et c'est peut-être un peu plus mal d'ailleurs, je veux dire, psychologiquement parlant, c'est peut-être assez sain. Il y a une chose aussi, bon, améliorer le cadre de vie, ça on en parle, ça fait aussi partie des choses, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont amenés à travailler un peu plus chez eux, donc ils vont peut-être être un peu plus sur la commune, et également peut-être aussi avoir envie de pratiquer des activités sportives ou des randonnées, etc., dans les espaces verts. Donc tout ça fait partie effectivement du plan Menouk qu'on avait déjà évoqué sur le mois de janvier, mois de février.
Et on va reparler des espaces verts dans ce débat. Florian Gauthier, vous mettez notamment en avant les exemples de solidarité durant cette période. Est-ce que ça a changé votre manière de voir certaines choses, notamment pour votre programme dans le second tour?
Je pense qu'en effet, cette crise a permis de révéler en fait la solidarité lycéenne de façon très très claire. Ça l'a révélé. On a vu des bénévoles, des associations, des anonymes qui sont allés aider des personnes dans le besoin. On a vu aussi des élans pour soutenir les soignants, qui ont d'ailleurs, moi j'ai été assez estomaqué de voir un détract du maire sortant critiquer ces gestes, que moi je trouve qu'il faut plutôt féliciter et souligner, parce que cette solidarité en fait à l'UC souligne et nous oblige, c'est-à-dire que ça nous oblige et ça démontre en fait la force et le potentiel de notre ville. Je pense qu'elle a plus de potentiel que on veut bien le penser. Elle est trop critiquée. Et nous, ce potentiel, en fait, on veut le développer. On pense que, notamment, parce que pour répondre à votre question, hein, quels sont les impacts de cette crise, ben, on pense que, en effet, dans les travaux sur les infrastructures, notamment tout ce qui est école et petite enfance, il va falloir prendre en considération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Ça serait ubuesque. Donc nous, au niveau des infrastructures, il va falloir que l'on axe sur une rénovation qui prend en compte cette crise par le biais notamment d'espaces plus importants. Donc il faudra que dans les rénovations que l'on avait déjà prévues dans le programme, ça soit pris en compte. On a aussi une conciergerie senior que l'on prévoit nous dans notre programme, hein, qui par le biais de services civiques de jeunes lycéens que l'on veut embaucher en fait. Et on souhaite que cette conciergerie senior qui va apporter des services à nos anciens, notamment les accompagner pour faire leurs courses, les aider pour les actes administratifs, éviter parfois des problèmes lorsqu'on ne peut pas se déplacer, pouvoir aller chercher le journaux ou le pain, enfin des choses du quotidien. Et on pense que cette conciergerie senior pourra être utilisée et développée en cas de future crise, c'est-à-dire en tant que conciergerie solidaire. Et on pense qu'on pourra notamment l'étendre aux plus démunis pour rassembler justement tous ces bénévoles, les associations, comme l'ont fait d'ailleurs de nombreuses communes. Hein. On a vu des communes qui ont rassemblé tous les bénévoles pour coudre des masques pour leurs habitants. Je pense à Mainvilliers notamment, il faut le souligner. Ce sont des actes en fait où ils sont allés au-delà des disparités politiques ou autres. Et puis il y a un point aussi important qu'il faudra prendre en compte et qui est aussi un point fondamental de notre programme, c'est sur l'urbanisme. On a bien vu aujourd'hui qu'il fallait arrêter d'entasser en fait et de bétonner les lycéens. C'est un point qui est vraiment plus qu'important et tous le disent. Il n'y a pas de raison que les personnes qui sont dans des quartiers cloisonnés, défavorisés, soient entassées de cette façon. Et donc il faut qu'on repense cela. Et c'est d'ailleurs, c'était déjà dans notre projet le 15 mars. Et je pense que ça le justifie. Et nous, on va accentuer là-dessus pour prévoir et conserver les espaces verts. C'est-à-dire qu'on veut modifier le projet de PLU du maire sortant qui a que très peu de contraintes hein, pour les promoteurs immobiliers. Et d'ailleurs, l'autorité environnementale l'a souligné au mois d'avril dernier. Et je conseille d'ailleurs tous les lycéens d'aller voir sur le site de la MRAE. Ils auront les documents qui sont enfin publiés dessus et ils verront en fait ce point-là. Nous, ce que l'on veut, c'est conserver les espaces verts, imposer aux promoteurs immobiliers de les conserver, mais aussi en créer.
Et on va en reparler un petit peu plus tard dans ce débat. Éric Lacroix, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette période difficile? Est-ce que ça a changé certaines lignes dans votre programme pour ce second tour?
Nullement. J'ai été particulièrement touché, effectivement, parce que moi, en m'engageant vers la réserve sanitaire, je me suis retrouvé confronté à un problème avec le site qui a carrément lâché tellement il y avait de volontaires. Aujourd'hui, énormément de Français, de lycéens, de Mainvillois, de Chartrains, avec leur capacité, même des fois relativement limitée, se sont mis à disposition d'associations et de aussi bien dans la confection de masques que au niveau des Restos du Cœur. Et il est important de favoriser, de mettre en place ce type de démarche. Aujourd'hui, il me paraît essentiel de tout aussi baser sur le localisme. Localisme, c'est fondamental. Effectivement, le télétravail, c'est du localisme. Les productions locales mises en valeur sur une place du marché, avec des facilités pour ces personnes qui vendraient des produits locaux, c'est important. Il faut qu'on revienne à certaines bases. On a vu que le mondialisme, c'était catastrophique pendant une période de pandémie. Et en refaisant ce localisme, on va remettre de la vie, du contact. Et à travers le contact, on crée quelque chose de fantastique. C'est la relation humaine. C'est-à-dire, les gens ne sont plus des étrangers, des inconnus. Ce sont des gens qui se connaissent et qui communiquent. Il est fondamental de revenir à ces valeurs-là. le Covid, la Covid, aujourd'hui on peut considérer, c'est peut-être terminé, ça peut peut-être revenir, on n'en sait rien. Mais il faut se préparer justement à pouvoir être quelque part indépendant alimentairement, médicalement, à tous les niveaux pour pouvoir répondre à la population.
Je voudrais rebondir quand même.
Allez-y.
On parle de solidarité, effectivement, sur l'UC, il y a une solidarité. Je veux dire, nous, à la ville de l'UC, on a une épicerie sociale qui est prise en charge des irrités. On a travaillé avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge, avec certains bénévoles d'ailleurs qui se sont manifestés auprès de la mairie, certains élus aussi également qui ont travaillé sur le sujet, mais sans coup de com'. Quand Monsieur Gauthier dit que j'attaque sur un de mes tracts une association sans la citer, en fait, c'est pas la démarche qu'elle a faite que nous critiquons. C'est le coup de com' avec les selfies imposés aux gens, notamment en foyer de personnes âgées, etc., sans respecter les distanciations sociales. Ça, c'est une réalité, mais il y a une raison. Le président de cette association est en très bonne position sur la liste de Monsieur Gauthier. Donc ça s'appelle un coup de com'. Monsieur Lacat disait tout à l'heure.
C'est complètement faux. Ça n'avait rien à voir avec une action qui vient de jeunes. Ce sont des jeunes qui ont pris l'initiative.
On connaît l'histoire.
Personne n'était au courant. Non, vous mentez au lycée.
Monsieur Lacat dit tout à l'heure qu'il avait mis silence radio. Nous également, on a mis silence radio à partir de 17 à midi. Personne n'a fait de coup de com sur le sujet.
Personne n'a fait de coup de com non plus, seul de notre côté.
Il y a eu un coup de com, et vous le savez très bien.
C'est une initiative de jeunes lycéens.
D'ailleurs, quand on voit les réactions sur les sites, c'est pour ça qu'on a bien compris qu'on avait fait mouche.
Oui. On s'était croisés à la préfecture, on avait abordé le sujet, et ça paraissait louable de ne pas surenchérir pendant cette période.
À un moment, il y a un effet de neutralité qu'on doit respecter.
Tout à fait.
Et personne n'a surenchéri. Par contre, vous avez attaqué des jeunes, et d'ailleurs, même le président de cette association n'était pas au courant. Les jeunes sont allés le chercher pour l'associer. Même moi, je n'étais pas au courant.
C'est marrant, c'est pas la discussion que j'ai eue avec une personne du bureau, pas plus tard que dimanche, sur le marché de Lucie.
Et on va revenir sur les projets que vous souhaitez défendre pour la ville, notamment pour la rendre plus attractive, si l'on prend l'exemple des commerces en centre-ville. Les avis sont partagés. Paola trouve, par exemple, qu'il manque de commerces de proximité, alors que Christian, lui, se dit plutôt satisfait.
Un plus de commerce sur la rue principale, oui. Là, on manque maintenant de commerce de proximité sur la rue de la République. Ce qu'il y avait il y a un certain temps, qu'il n'y a plus maintenant. Et un marché plus vivant, parce que maintenant, il est mort.
Ce qui est bien, c'est qu'on a tous les commerces, c'est déjà pas mal quand même. Moi, j'habite en pleine ville, donc j'ai le médecin à côté, j'ai la boulangerie, j'ai tout. Ça me plaît bien.
Florent Gauthier, vous venez d'entendre ces lycéens. Votre avis, vous, sur les commerces de proximité, c'est suffisant ou pas?
En effet, il faut développer. Alors nous, on a une volonté, notamment au niveau du marché de Lucé. On aimerait, en fait, là aussi, travailler en concertation avec ceux qui le font vivre, c'est-à-dire ceux qui sont là, les exposants, les commerçants qui sont tous les dimanches. Moi, j'y suis tous les dimanches. Et non pas juste en période électorale. Donc, je connais très bien ce marché. Je connais très bien aussi les exposants et je pense que tous, ils ont envie en fait d'avoir plus de vie. S'il y a plus d'animation autour de ce marché, eh bien ça va attirer plus de monde et donc c'est tout bénéf pour ces commerçants. Ça sera aussi tout bénéf pour les lycéens parce que ça va attirer d'autres exposants et on rentre dans un cercle vertueux. Et si on a des commerces à côté, ils vont vouloir s'installer. Aujourd'hui, juste à côté, on a des commerces aussi qui sont qui n'arrivent pas à retrouver preneur. Pourquoi? Parce que les loyers sont très élevés. Et pourquoi les loyers sont très élevés? Parce que aussi à Lucé, nous avons la taxe foncière la plus élevée de toutes les villes d'Eure-et-Loire. Donc c'est un point qui est important. Donc il est reporté sur les loyers et donc ça devient très compliqué. Donc en effet, il faudra travailler et notamment avec ceux qui en ont la compétence économique et commerciale. Aujourd'hui, elle est au niveau de l'agglomération et il faudra pas appliquer la politique de la chaise vide. Il faudra être présent et défendre les intérêts des lycéens et son indépendance et aussi ses commerces.
Emmanuel Lecomte, comment dynamiser le centre-ville? Ça doit passer par l'offre commerciale.
Écoutez, on avait déjà eu ce débat le lundi 9 mars, quand on avait fait le débat à l'hippodrome de Chartres. En fait, le monsieur l'a très bien résumé la situation. Il y a ce qu'il faut comme commerce à Lucé. Rue de la République, il y a des commerces. Rue du Maréchal Leclerc, il y a des commerces qui marchent très bien. Vous avez le Mail du Vieux-Puy, vous en avez d'autres. Il y a une sensation aujourd'hui pour certains qu'il y a moins de commerces à Lucé parce qu'ils voient la galerie commerciale du groupe Géant Casino désertée. En termes de commerce, même s'il y avait beaucoup de monde, j'y étais par exemple samedi après-midi, c'était noir de monde, alors qu'il y a moins de commerce effectivement. La dynamique, elle est aussi, comment dirais-je, on est dans la sphère privée. C'est-à-dire que vous avez beau être une commune et inciter les gens, d'abord la compétence économique, comme dit Monsieur Gauthier, c'est à Chartres Métropole, faut le savoir, malheureusement depuis janvier 2001, c'est un peu dommage puisque nous, maires, on n'a plus la main sur le sujet, donc en termes d'incitatifs, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est aussi une réalité et Lucé, globalement, les commerces se portent même nettement mieux depuis une quinzaine d'années, depuis que Chartres a mis des parkings payants souterrains et en surface. Les gens ont tendance à venir sur Lucé, sur Mainvilliers, enfin sur les villes au pourtour de Chartres. Donc c'est tout bénef. Sur le marché, alors sur le marché, nous on a dans notre programme une proposition de faire une halle au marché, tout simplement, une halle de marché couvert avec toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les commerçants, qui serait sur l'enceinte justement requalifiée de l'emprise Richoux, le stade, il y aurait une fonction sportive, mais pas que, poumon vert, et amener justement ce marché. Maintenant, Monsieur Gauthier, vous parliez de dynamisation. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, nous avons décidé de réunir tous les commerçants sédentaires qui composent le marché aujourd'hui et ceux qui étaient présents à l'époque, il y a 5-6 ans. Ils sont tous venus à la première réunion. On les attend encore pour la deuxième. Alors, vous savez, la problématique des commerçants sédentaires, on n'est pas sur une problématique classique. Ce sont des gens qui n'habitent pas Lucé, aucun n'habite Lucé, et donc ils ont leur petite, leur petite vision des choses. Et quand on commence un peu à vouloir les emmener faire bouger les choses et faire des animations, ça interpelle défavorablement. Donc le discours, moi je veux bien, la méthode, je veux bien, mais il y a la réalité de terrain, Monsieur Gauthier.
Eric. La réalité de terrain, c'est qu'ils souhaitent être concertés. Et d'ailleurs, ils auraient bien
voulu. Ils n'ont aucun contact.
Et d'ailleurs, même pour le déconfinement, ils n'ont aucun contact pour la mise en place du marché à ce moment-là.
Ah, désolé. Alors là, Monsieur Gauthier,
à part un courrier qui leur a été envoyé.
On va écouter. C'est important. Le marché a réouvert dans des conditions normales, Monsieur Gauthier. Nous étions en zone verte. Il n'y avait plus de confinement. Et en plus, je pense à un commerçant.
Ça n'empêche pas de se concerter avec eux.
Qui a continué à vendre sur d'autres endroits, y compris sur la commune de Lucé, et qui ne respectait aucun protocole sanitaire. Et je pèse mes mots.
Par contre, je pense que les Lucéens peuvent savoir que le stade Richoux va disparaître parce que s'il y a une halle, le stade va disparaître.
Non, on va écouter Eric Lacroix sur ce sujet des commerces et de l'attractivité en centre-ville. Vous souhaitez notamment soutenir l'implantation de commerces. Expliquez-nous.
Tout à fait. Moi, je me suis entretenu avec les citoyens pour le climat 28. Et sur leur charte de 32 propositions, il y en a 16 que je retiens. Je suis particulièrement touché et je suis vraiment dans l'intérêt de la défense des petits producteurs. Et je pense qu'on peut faire quelque chose, un travail comme ce qui a été fait à Nogent-le-Rotrou par rapport aux producteurs locaux, leur permettre... Il y a assez de commerces vides pour pouvoir leur proposer, les aider dans l'implantation. Ça répond aussi à une demande de qualité aujourd'hui, de traçabilité. Les gens, ça compte beaucoup. On a aussi des boucheries aujourd'hui qui sont, en réalité, la structure est en bon état. Je pense qu'on peut tout faire pour favoriser l'implantation de producteurs de viande locale.
Comment, justement, favoriser l'implantation?
Bah, tout simplement, en participant, en accordant une aide. Et une fois que l'implantation est réalisée, vu la vente de produits de qualité, il n'y a aucun doute là-dessus, la demande suivra. Il est important aussi de permettre à certaines structures de s'installer. Par exemple, comme à la Loupe, on a une recyclerie. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants de Lucé sont des personnes avec des moyens relativement limités. Et je pense que si elles peuvent acheter à moindre coût des objets, plutôt que ces objets partent à la benne ou à la déchetterie, ça leur permettra de s'équiper à faible coût. Je suis aussi dans l'idée d'envisager la mise en place d'un garage citoyen. Ça se pratique dans d'autres communes. Aujourd'hui, on a beaucoup de lycéens qui n'ont pas les moyens de faire réparer leur voiture chez des concessionnaires. On a énormément de lycéens qui sont soit retraités ou soit qui sont en recherche d'emploi, qui sont compétents dans ce domaine. Je crois qu'il faut leur permettre de venir en aide à ces personnes qui sont dans cette problématique par rapport à leur véhicule. Aujourd'hui, ça fait partie aussi, quelque part, d'une forme de sécurité routière.
On va poursuivre... Un autre sujet abordé lors de cette campagne, c'est le dossier de la sécurité qui fait partie des préoccupations des habitants. Il en est question également à Lucé et encore une fois, les opinions divergent.
C'est au niveau du vieux puits, puis il y a le banditisme qui a accru là-bas. En tout cas, on a la crainte au cœur, on a très peur. Donc il faut améliorer au niveau de la sécurité, au niveau de cet endroit. Et sinon, après ça, ça va dans l'ensemble.
Je sors régulièrement parce que j'ai un chien, donc je sors le soir et j'ai jamais eu de problème.
Oui, ça dépend des quartiers, mais enfin bon... La sécurité, c'est en ce moment, c'est partout. C'est pas uniquement ici.
Ah, ça va. Oui. Moi qui circule beaucoup en vélo et puis beaucoup. Donc la sécurité, oui, ça va.
La sécurité, oui, ça va. À Lucé, comme le disait cette habitante Emmanuel Lecomte.
Bah, écoutez, oui, il y a quelques petits soucis, notamment ces derniers mois, avec un phénomène de bande sur Lucé et Mainvilliers, mais pas que, puisqu'il y a des gens de Chartres, du Coudray, de Barjouville qui composent ces bandes qui s'affrontent. C'est un problème national, c'est un problème sociétal, d'ailleurs ce qu'on avait évoqué lors du débat du 9 mars.
Et alors qu'est-ce que vous proposez?
Alors nous, au niveau sécurité, bah, effectivement, déjà la sécurité c'est un droit régalien. Qui dit droit régalien dit État. C'est donc à l'État d'assurer à la fois notre sécurité extérieure à travers son armée, mais également la sécurité intérieure à travers les forces de gendarmerie, qui sont une des composantes de l'armée, mais également les policiers. Donc Lucé, tout comme Chartres et les autres communes de l'agglomération, sont en zone police. Qui dit zone police dit commissariat. Donc il n'y a uniquement un seul commissariat à Chartres, avec 120-140 effectifs en tenue, on va dire. Donc moi, je réclame un commissariat de police sur Lucé, qui aurait une compétence à la fois sur Lucé, Mainvilliers et sur Luisant, en fait, sur la partie ouest de l'agglomération. Pour ce faire, j'ai rencontré à deux reprises le secrétaire d'État près du ministre de l'Intérieur, donc place Beauvau, sur le sujet. Et effectivement, il y a une logique. Je suis assez optimiste. Et donc, nous, la ville de Lucé, on mettrait à disposition le 1 rue de Normandie, qui est un terrain qui appartient à la commune, on le mettrait à l'euro symbolique. Et tout le reste, ça serait à la charge de l'État avec une composante. N'oubliez pas quand même qu'à Lucé, je le rappelle pour ceux qui ont déjà oublié, il y a eu un commissariat de police entre 1999 et 2002 qui était basé aux Arcades. Moi, je me souviens puisque j'étais déjà élu et la commune avait tout pris en charge. On l'a fait fermer. Au niveau de la police municipale, nous sommes passés de 27 caméras en 2008 à 61 caméras aujourd'hui et nous allons continuer à développer ces caméras. Nous avons 24 écrans dans un CSU avec des gens derrière les écrans. Nous avons ainsi adapté le rythme de la police nationale. D'ailleurs, nous allons encore recruter. Attention, comme je le disais, il y a déjà 3 mois, encore faut-il que nous ayons la ressource en face. Parce que ouvrir des postes, c'est une chose, avoir des candidats, c'en est une autre. Et ça devient un vrai problème aujourd'hui, à commencer par la police. Puisqu'ils ont des opportunités pour aller vers la police nationale, avec tous les avantages que ça comporte. Donc, il y a les recrutements, il y a les caméras, comme je le disais, avec un CSU. CSU, d'ailleurs, qui est en liaison directe avec le commissariat de Chartres, puisque le commissariat de Chartres a H24 les images de Lucé. Et c'est pour ça, quand je vois que certains maires se rallient à la proposition du président de Chartres Métropole d'avoir les images sur un CSU intercommunal, je ne vois pas d'intérêt. D'abord, premièrement, ils ne sont pas en compétence. C'est le maire qui est en compétence pour la sécurité de sa commune avec le ministère de l'Intérieur et donc la préfète. Et donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait que les caméras, les écrans soient vus à Chartres. On peut se poser la question d'ailleurs, alors que c'est déjà le cas avec la police nationale. Ça, c'est une réalité. On va également développer les caméras mobiles sur les policiers. Ça permet d'avoir une relation apaisée entre les personnes contrôlées et les policiers municipaux. Là où ça a été fait, ça marche très bien. Et également mettre des caméras mobiles en fonction de l'actualité, s'il y a des coups durs. Et autre petite affaire, et on a mis ça en place maintenant au 2 janvier 2017, on a simplement étudié les statistiques de la délinquance sur l'UC et la délinquance en général. Et vous vous rendez compte que 55% des actes de délinquance majeurs, tout ce qui est agression dans la rue, vol à la roulotte, vol dans les appartements, dans les maisons, se passe du lundi au vendredi entre 14h et 17h. 55% des actes. Il y a très peu d'actes délictueux dans le week-end et la nuit. Donc on a tout simplement adapté le rythme de la police municipale à ces statistiques, tout simplement, à ces chiffres, hein, c'est une application mathématique. Et je peux vous dire que dès la première année, nous avons eu une baisse notable de la délinquance à Lucé de 10,5%.
On va écouter Florent Gauthier sur ce sujet, la sécurité, ça va ou pas à Lucé, selon vous? Quelles sont vos propositions dans domaine?
Nos propositions, en effet, c'est premièrement, en fait, c'est d'augmenter le nombre de policiers municipaux. Et notamment d'intégrer en fait en leur sein en fait ce qu'on appelle des médiateurs. Ça rentre en fait dans les postes au sein de la police municipale. Nous pensons en fait que la police municipale aujourd'hui n'a pas assez d'effectifs. Et pourquoi en fait prévoir ces effectifs? Parce que alors je n'ai pas les chiffres de la sécurité que mentionne le maire sortant, mais le constat en fait c'est que aujourd'hui les problématiques se font plutôt fin de soirée, plutôt le week-end, et que aujourd'hui le retour des lucéens, eh bien, c'est de dire qu'il y a quand même des problèmes. Alors, c'est pas des problèmes qui nécessitent obligatoirement l'intervention de la police nationale. C'est plutôt parfois des problèmes de voisinage et ou des problèmes avec des jeunes qui vont trouver un petit peu l'ordre public. Donc, d'avoir une présence en fait le week-end, mais aussi potentiellement pouvoir prévoir des patrouilles la nuit, je pense que ça serait quelque chose qui est aujourd'hui attendu par les lucéens, et ça c'est un point important parce que, comme l'a dit d'ailleurs monsieur le maire sortant, c'est que de toute façon la police nationale c'est pas de la compétence du maire. La police nationale, la compétence du maire, c'est la police municipale. Et pourquoi en fait c'est une fausse bonne idée ce commissariat national à Lucé?
Vous êtes contre, vous, l'arrivée de la police nationale, par exemple?
Mais la police nationale, mais on l'a déjà. Vous savez le délai que met en fait une voiture de police nationale pour venir à Lucé? En intervention, en fait, c'est moins de 2 minutes pour aller à Lucé Ouest, si entre 1 et 2 minutes pour venir. Pourquoi? Parce que le commissariat, on a de la chance, il est sur la partie ouest. Donc, pourquoi c'est une mauvaise idée? Pourquoi c'est une fausse bonne idée? Parce que la construction derrière, Alors oui, ça va pas coûter à la ville, ça permet de déporter le sujet vers la police nationale. Mais il va falloir payer l'électricité, ça va coûter en administratif, ça va coûter en construction. Et d'ailleurs, qui c'est qui va payer? Bah, c'est le contribuable. Au lieu de se battre pour avoir du bâtiment qui va coûter en eau, en électricité, en personnel administratif, est-ce qu'il serait pas mieux de pouvoir se battre pour avoir plus de personnel sur le terrain, d'avoir plus de voitures? Moi, je préfère que l'on se batte auprès du secrétaire d'État ou du ministère de l'Intérieur pour avoir plus de personnel pour le commissariat central, pour qu'il puisse intervenir de façon plus récurrente. Parce que au moins, c'est des personnels de terrain, c'est pas du personnel administratif, et puis des coûts astronomiques qui, derrière, sont pris en charge, il faut le rappeler, pour le contribuable. Combien on pourrait avoir de postes supplémentaires avec le coût d'un commissariat? Ça, il faut se poser la question. Et l'autre point aussi, que je veux souligner, c'est qu'on parle de vidéosurveillance. Force est de constater qu'aujourd'hui, derrière les écrans allumés, en fait, il n'y a personne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand on dit que la police nationale, en fait, la police nationale a la possibilité d'y avoir accès.
Non, elle y a accès en permanence.
Sauf qu'il n'y a pas de personne, en fait, qui peut regarder l'ensemble des caméras, comme pourrait le permettre un centre de supervision urbain, et je ne vais pas m'interrompre, hein, parce que vous m'avez dit pas aux autres, donc je finis. Donc, comme le pourrait le permettre un centre de supervision urbain opérationnel. Et pourquoi l'intérêt? Parce que l'intérêt, c'est aussi de pouvoir mutualiser le coût des caméras. Si on veut avoir des caméras où on peut reconnaître la personne la nuit, eh bien, il faut pouvoir avoir du matériel de qualité, du matériel entretenu. Alors qu'aujourd'hui, quand il y a des cambriolages, notamment rue de la République, hein, comme récemment, eh bien, on se pose la question de savoir si on pourra consulter les bandes vidéo. Parce que parfois, en fait, soit la caméra en fait est en panne, elle est en réfection, ou alors, on a dépassé le délai. Donc aujourd'hui, nous, ce que l'on veut, c'est du matériel de qualité qui soit efficient, et on pense que mutualiser avec d'ailleurs les 66 communes qui au comité des maires, où apparemment monsieur le maire sortant n'était pas présent, mais a décidé à l'unanimité de mettre en place ce centre de supervision urbain, eh bien, nous pensons en fait, en effet, que l'UC a le droit aussi de bénéficier de cette mutualisation.
Et on l'a bien compris, une réponse très rapide.
Alors là, je voudrais prendre monsieur Gauthier,
monsieur Lecomte,
parce que là, il y a quand même un problème. Pour vous dire qu'il y a tout le temps quelqu'un derrière les caméras, pendant le confinement, il y a eu une intervention de 4 véhicules de police rue de la République. Parce qu'ils avaient remarqué un certain nombre de choses, d'attroupements en rue de la République, pas très loin du stade Richoux, pendant le confinement. 4 véhicules de police nationale sont intervenus avec un commissaire. Et finalement, il n'y avait aucun problème, mais en fait, ils sont intervenus parce que personne ne les a appelés. Ils ont vu les images sur les caméras, c'est tout. Ce CSU urbain existe déjà, et il est dans les mains de la police nationale.
Mais si, vous auriez dû être présent vous auriez eu la présentation.
Bah oui, on est en conseil municipal, monsieur Gauthier.
Vous auriez dû être présent.
Attendez. Nos caméras sont en état, monsieur Gauthier. Si les gens ne peuvent pas avoir une extraction caméra, c'est que les officiers de police judiciaire ou le juge d'instruction n'a pas fait la demande légale dans le délai de 14 jours, et vous le savez très bien.
On vous a bien entendu, messieurs, sur ce sujet. On va écouter à présent Eric Lacroix. Comment répondre, selon vous, aux inquiétudes face à l'insécurité au niveau de...
Alors, nous, c'est très simple. Déjà, nous avons fonctionné de façon très particulière. La première chose qui a été faite, c'est la distribution de 7500 questionnaires qui traitaient de différents sujets. L'un des sujets était la sécurité. Donc nous avons eu des retours et les chiffres, les statistiques par rapport à ces retours étaient inquiétants. Les gens ont besoin d'être rassurés.
Et comment les rassurer, justement?
Tout simplement en augmentant la présence policière, mais la police municipale, puisque je sais pertinemment, en ayant servi dans des cadres particuliers comme les missions Sentinelle, Vigipirate, je suis parfaitement conscient qu'aujourd'hui, les moyens de police sont pas suffisants, soit en personnel, en véhicule et en moyens de toutes sortes. On leur demande souvent d'effectuer de nombreuses missions et s'ils sont sur un point B, retrouver le point C, la distance n'est pas forcément moins d'une minute.
Tout à fait.
Aujourd'hui, il y a un décret qui a été signé en novembre 2016 qui, ce jour-là, a entériné l'augmentation des pouvoirs de police municipale. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'armer la police municipale. L'armement de la police municipale, l'équipement de la police municipale se fait en concertation avec le ministre de l'Intérieur et une partie de ce matériel est financée. Aujourd'hui, ma volonté, c'est d'armer la police municipale tout simplement parce que ce qui peut se passer, comme ce qui s'est passé à Dijon, peut se passer demain à l'UC. Que voulez-vous que des gens qui sont policiers municipaux fassent face à des gens qui sont armés d'armes de guerre? Il y a quelque part une obligation de leur permettre de se protéger, de se défendre, d'être en légitime défense, de protéger aussi la population. Cette particularité, pour moi, est essentielle. Je souhaite aussi que la police municipale ne soit pas une police municipale qui se promène, qui circule en voiture, mais une police municipale de terrain, qui sont en proximité, à vélo, peu importe les moyens. Je souhaite aussi que le commissariat de police municipal de Lucé soit un endroit ouvert, accessible. Quand vous êtes un citoyen lambda, vous n'avez pas forcément envie d'y rentrer, parce que vous n'êtes pas certain d'en ressortir. Voilà, c'est particulier, quoi. C'est, alors, je suis parfaitement conscient qu'il faut assurer la sécurité des agents, mais franchement, vous arrivez face à ces grilles, c'est pas rassurant. C'est vraiment pas rassurant. Voilà.
Est-ce que vous êtes favorable à l'arrivée de la police nationale, par exemple?
Mais la police nationale, si elle vient, je veux bien, mais j'y crois pas. Aujourd'hui, on réduit partout les infrastructures. On réduit. Il y a de moins en moins de moyens. On réduit le nombre de sous-préfectures. On va peut-être réduire demain le nombre de députés. On réduit. On n'arrête pas de réduire. Donc, si elle vient, c'est fantastique. Ce sera un plus. Mais aujourd'hui, je pense que on peut interagir avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire, le maire aura la possibilité d'augmenter la capacité de la police municipale pour répondre à la demande de la population.
On vous a entendu juste sur la sécurité. Vous êtes un peu en avance, monsieur Lecomte.
En fait, si les commissariats, même comme nous, il y a une demande sur l'UC, même ailleurs, il y a 10 000 policiers en recrutement. Il faut quand même le savoir. Donc, les moyens sont là. Sur l'accueil à la police municipale, en fait, il y a un plan Vigipirate, ce qui fait que effectivement, faut montrer patte blanche pour rentrer dans le poste de police. Et tout à l'heure, vous évoquez l'armement de la police municipale parce que vous parliez de l'exemple de Dijon. Il faut savoir une chose, c'est qu'une police municipale n'a aucun droit pour faire du maintien de l'ordre.
On vous a entendu sur le sujet de la sécurité. Tous, on va juste faire une petite pause pour la publicité. On se retrouve juste après pour la suite et fin de ce débat.
Élection municipale 2020. Le grand débat en direct sur Intensité. Élection municipale 2020 sur Intensité. Ludovic Ravaillot.
Soyez les bienvenus sur Intensité, pratiquement 20h, la suite du débat des municipales. Ce soir, on s'intéresse à la ville de Lucé avec les trois candidats qui sont autour de la table. Emmanuel Lecomte, maire sortant, tête de liste toujours ensemble pour Lucé. Florent Gauthier qui conduit la liste pour l'avenir de Lucé. Puis Eric Lacroix du Rassemblement National, la tête de liste Lucé autrement. On va aborder le thème de l'environnement, comment rendre une ville encore plus agréable et offrir une meilleure qualité de vie avec l'arrivée des beaux jours et de la chaleur. Comme aujourd'hui, on pense notamment aux espaces verts où il fait bon se détendre. Un sujet qui ne fait pas uniquement débat à Paris, mais un peu partout pour ces municipales 2020. Éric Lacroix, vous avez été un peu en retard au niveau du temps de parole. Vous souhaitez une plus grande végétalisation de la commune. Avez-vous quelques exemples pour illustrer cette proposition? Comment vous comptez faire?
Alors c'est très très simple. Aujourd'hui, on a plein de quartiers à Lucé, par exemple le quartier du Vieux-Puy, tout ça. Et vous avez des pelouses défraîchies qui ressemblent plus à des terrains vagues. Je crois qu'aujourd'hui, il faut remettre du végétal. Et en remettant du végétal, par exemple, avec les bailleurs sociaux, mettre en place ce que j'appelle des jardins familiaux. Il faut considérer que ces gens qui habitent dans ces immeubles, la plupart ne se connaissent pas, ne se côtoient pas, puisque ils sont derrière leurs portes. En créant ces espaces, on va leur permettre de pouvoir se rencontrer, d'échanger, de s'aider, de s'accompagner dans des démarches multiples et variées. Plutôt que de laisser ces terrains sans réutilisation, on peut aller dans ce sens. C'est pareil, je pense qu'aujourd'hui, on a une voie de chemin de fer désaffectée qui traverse Lucé. Je trouve que l'idée de la transformer pour faire une voie verte, ça peut être quelque chose de fantastique. Cette voie verte, justement, passerait à côté de certains de ces quartiers et débuterait, grosso modo, près de l'impasse du Finistère. Donc végétaliser, planter des arbres pour les naissances, mettre des abris insectes, des nichoirs, et tout ça, bien sûr, en partenariat avec des associations compétentes, pour pas faire n'importe quoi, puisqu'on maîtrise pas tous les sujets.
Ça manque d'espace vert aujourd'hui, Lucé, selon vous?
Il faut revoir. Il faut remettre des arbres. Par exemple, rue de la Liberté, je pense qu'il y a possibilité de remettre du végétal. Il faut savoir que l'impact du végétal, lorsqu'il y a des périodes caniculaires, le macadam, automatiquement, avec l'ombre des arbres, se réchauffe moins vite et dégage moins de rayonnement la nuit. Il faut aussi recréer des espaces où les gens ont envie de se retrouver. Par exemple, un parc tout à fait adapté pour des personnes, des enfants valides et des enfants touchés par le handicap. À savoir que toutes ces mesures, toutes ces choses à mettre en place, peuvent trouver des financements auprès des ministères compétents. Je suis aussi dans l'idée, puisque je suis éducateur spécialisé et j'ai mis en place certains projets dans les structures où j'ai travaillé. Et il s'est avéré que le végétal, la terre, permet de créer du lien, de réduire les tensions et de créer une communication positive. Donc aujourd'hui, dans les écoles, ça peut être aussi possible de créer des petits espaces. Il en existe déjà, mais de renforcer, d'en mettre davantage. Voilà, ça peut être des solutions.
Florent Gauthier, vous écrivez dans votre programme vouloir stopper la bétonisation. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Vous souhaitez plus de verdure qu'aujourd'hui.
Tout à fait. C'est un point qui est fondamental. Là, on va subir cette semaine encore des chaleurs et on va le voir quand on est dans une ville comme Lucé. En fait, il va faire chaud dès lors qu'il y a beaucoup de macadam, comme Monsieur Lacroix le disait. Et puis dès lors qu'en fait on a peu de végétaux. Donc nous déjà en fait le point important c'est que c'est pas le tout d'avoir des projets, c'est que il faut intégrer en fait au cœur de toute décision des considérations environnementales et de développement durable. Donc il faut que à chaque fois qu'on a un projet, quel qu'il soit, ces points en fait soient pris en compte. Et notamment en fait en effet sur l'urbanisme dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui nous on a une volonté, c'est d'aller plus loin en fait que ce qui est fait dans le projet d'urbanisme du maire sortant, qui d'ailleurs déjà l'été dernier en août 2019 l'autorité régionale, qui est la MRAE environnementale, avait souligné que le projet de PLU était susceptible d'avoir des impacts notables sur l'environnement et la santé humaine, ce qui n'est pas rien. On voit en fait que d'ailleurs en avril, le 17 avril 2020, elle est revenue avec un avis qui est assez clair aussi, où il y a beaucoup de choses à changer dans ce projet de PLU, de plan local d'urbanisme, et nous voulons le faire, nous voulons imposer des contraintes environnementales. Pourquoi ? Parce que en fait, il faut que les promoteurs immobiliers, il faut arrêter cette bétonisation. Il faut que les promoteurs immobiliers comprennent qu'on a besoin plus aussi d'espaces verts. Il faut arrêter. On sait qu'on a connu historiquement des erreurs, notamment le Carré d'Or. Il y a trop peu d'espaces verts et tout le monde s'en plaint. Donc ça, il faut pas reproduire les mêmes erreurs. Ce que l'on souhaite aussi, c'est notamment parce que l'environnement, c'est aussi...
Vous êtes un peu en avance.
D'accord, pardon. C'est notamment aussi au niveau des espaces verts. Nous, ce que nous souhaitons, c'est notamment rénover l'ensemble de la plaine des Carreaux et du centre des Carreaux pour pouvoir en faire, en fait, un lieu où on pourrait, justement, avoir un centre de loisirs et on pourrait avoir un vrai poumon vert là-bas. On voudrait aussi... nous, au niveau du stade Richoux, conserver le stade et faire plutôt un parc intergénérationnel à côté, c'est-à-dire le rénover, pour pouvoir en fait permettre aux Lucéens de pouvoir respirer. Et le dernier point, parce que l'environnement, c'est pas que les arbres et les végétaux, c'est aussi notre restauration scolaire. Nous avons besoin en fait de retrouver, on a la chance en fait d'avoir une restauration scolaire à Lucé. Nous souhaitons conserver cette restauration scolaire, mais nous souhaitons aussi la valoriser. Donc ça, c'est un point important, malgré ce que j'ai pu entendre. Les colibés et les ragots qui mentionnaient qu'on voulait les supprimer, c'est faux. Nous, j'insiste là-dessus, nous voulons conserver et valoriser, notamment dans le cadre d'un projet alimentaire lucéen, grâce et qui permettra d'avoir de l'alimentation bio et de proximité à budget constant, par le biais en fait d'actions anti-gaspillage et d'actions en fait auprès de nos enfants. Et on a déjà des contacts en fait avec des producteurs locaux. On nous a dit qu'il y en avait pas. Eh bien, il y en a qui sont prêts à travailler avec nous.
On a entendu vos projets au niveau de l'environnement. Emmanuel Lecomte, vous estimez avoir fait tout ce qu'il fallait pour apporter un peu de verdure au milieu de la ville.
Alors Lucé, c'est 606 hectares. Sur les 606 hectares, nous avons 53 hectares d'espace vert. Je sais, ça interpelle quand on dit ça, mais c'est une réalité. Dont 12,7% dont 12,7% en terrain de sport. Donc à Lucé, il y a quand même des points verts. Vous avez autour de la mairie, vous avez la plaine de jeu des Carreaux, vous avez la ferme des Carreaux, vous avez des stades, effectivement, qui sont un outil important. Donc nous, l'idée, c'est effectivement de faire du stade Richoux un poumon vert en maintenant une activité sportive, certes, mais pas que. On peut y adjoindre, comme je disais tout à l'heure, la halle au marché, il y a largement la place. Avec un nouveau gymnase, enfin tout va bien. Je veux dire, il y a ce qu'il faut, il y a suffisamment d'emprise et où les gens pourront se balader en famille.
Il n'y a pas
sur des espaces verts. Attendez, on va nous réhabiliter. Et ça, c'est un secret de Polichinelle. On va réhabiliter la plaine de jeu des Carreaux et la ferme pédagogie des Carreaux, avec notamment une ouverture le week-end pour la ferme pédagogie des Carreaux, pour que les familles puissent accéder à cette ferme pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, on est victime de notre succès. C'est les écoles qui fréquentent cette ferme pédagogique. Et donc, tout un chacun, les gens ont un peu de mal à venir à cette ferme pédagogique. Donc, ça veut dire que nous, il va falloir aussi qu'on aménage cette ferme pédagogique pour qu'elle soit accessible à tout le monde. D'autant plus avec les contraintes sanitaires. Ouais. Au niveau du plan local de l'urbanisme, bah, écoutez, il y a 17 ans, je suis l'inventeur du concept de la bétonite aiguë.
C'est moi qui ai lancé ça. Je suis et toujours contre la bétonite aiguë. Donc en France, il y a quand même une constitution. Il y a un droit à la propriété et il y a un droit à la construction. Le maire a simplement dans ses mains ce qu'on appelle un PLU, un plan local d'urbanisme. Nous en avons réalisé un qui a été voté en juin 2012 à l'unanimité, majorité opposition de l'époque, où effectivement il y avait déjà des choses qui étaient actées, notamment Monsieur Laca parlait tout à l'heure des cheminements verts sur les anciennes voies ferrées. C'est déjà le cas depuis juin 2012, et ça c'est dans le cadre du plan de déplacement urbain avec charte métropole. Donc ça va prendre de l'ampleur à partir du moment où le projet Olis, l'écoquartier, sera réalisé. Donc ça c'est une réalité. Là, nous avons donc mis en révision ce plan local de l'urbanisme. Et d'ailleurs, Monsieur Gauthier a voté puisqu'il y a unanimité.
On aurait bien l'arrêté.
L'arrêté de révision en juin 2019, il y a quasiment un an jour pour jour.
Parce que j'ai donc les documents, si vous voulez, les documents que vous nous avez présentés à l'époque.
Attendez, laissez-moi finir.
10 pages sur 200, c'est un peu facile.
Il y avait 500 pages, même d'ailleurs, entre parenthèses, qui étaient accessibles en mairie. On vous attend encore. Mais en fait, les grandes lignes étaient les suivantes. Et vous le savez très bien.
Mentir par omission, ça résume en mensonge. Non, mais si vous fournissez pas les documents.
Attendez, monsieur Gauthier.
Non, mais vous vous fourvoyez en mentionnant ce type de choses.
Monsieur Gauthier, laissez-moi terminer. Je sais que vous êtes gêné.
C'est trop facile.
Parce que vous avez voté, vous êtes embêté par rapport à votre électeur.
Non, moi,
la philosophie,
je suis affligé parce que
on n'entend pas tout le. Je parle, monsieur Gauthier, je vous ai pas interrompu.
Sur les grandes lignes.
Le PLU, les grandes lignes, et vous le savez très bien, c'est halte à la bétonite. On a commencé il y a 17 ans. J'ai fait ça pour le PLU.
Donc là,
mais non, c'est pas ce qu'elle dit. Il y aura que 3 étages maximum.
On vous entend plus, si vous voulez parler, tous les deux.
Monsieur Gauthier, les gens vont rien
comprendre. Plus sur ce sujet-là.
On a bien compris, en tout cas, tous les deux. Bah, attendez, laissez-moi terminer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi des murs, fleuris, et des toitures fleuries également. C'est déjà le cas. Nous avons construit les Lucioles, qui est une crèche, en 2013. La toiture est, arborée. Et donc, il y a.
Et en fait,
c'est continuer dans ce sens, en fait, hein.
Eh ben, on a bien compris. Un mot très rapide, si vous me le promettez, sur les animations. Ça aussi, c'est important pour la vie de la commune. Eric, là, quand on vous écoute sur les animations de la ville, vous êtes un petit peu en retard. Qu'est-ce que vous proposerez? Qu'est-ce qu'il faudrait en plus à l'UC pour que ça vive autour des habitants?
Alors, moi, je fais partie d'une association qui participe au spectacle Chartres 1254. Cette association est implantée sur la ville de l'UC. Et c'est vrai que le rayonnement de cette association pourrait être beaucoup plus important au profit de la ville de l'UC. Il y aurait possibilité tout à fait de faire des spectacles centre-ville, d'attirer du monde, de recréer une dynamique. Aujourd'hui, malheureusement, moi j'ai découvert l'UC et j'étais un peu surpris de voir que pour moi il s'y passait pas grand chose. Alors c'est vrai que je viens d'une ville qui historiquement a un gros passé, Vissembourg, dans le 67, où les animations sont très très régulières. Donc c'est vrai que moi ça m'a un peu surpris. Je pense qu'aujourd'hui il faut faire participer les associations, intégrer les associations dans la dynamique. Mon principe, par exemple, ce serait d'apporter des financements aux associations, mais en échange d'une contribution réelle. Que cette contribution aille soit en direction de la ville, en direction des écoles, en direction des personnes âgées. Voilà. Le principe, c'est ça. C'est recréer une dynamique du mouvement.
Très bien. On vous a entendu sur ces animations. Très rapidement, monsieur Gauthier, vous êtes déjà en avance. Vraiment très, très court, hein.
Alors très court, en fait, nous ce que l'on veut, c'est donner du renouveau, notamment à l'ensemble des animations à l'UC. Donc il y a la fête de l'UC où on veut associer l'ensemble des associations. C'est pour cela d'ailleurs qu'on veut valoriser leurs subventions. C'est aussi, on va leur donner plus, mais on va leur demander plus. C'est-à-dire de venir travailler avec nous pour pouvoir relancer cette fête de l'UC qui a attiré des centaines de personnes et qui a attiré aussi beaucoup de monde de l'extérieur. Ça pour nous, c'est quelque chose qui est très important, notamment avec le retour de défilés pour pouvoir présenter nos associations qui ont besoin d'être valorisées pour attirer du monde. Et puis il y a le marché Noël. Nous, on aimerait faire aussi une vraie fête de Noël, là aussi, avec l'ensemble des associations, des écoles et des commerçants. Comme pour la fête de l'UC, ce sont des grands moments, en fait, qu'il faut être fédérateur, c'est-à-dire qu'on doit fédérer l'ensemble des acteurs qui font vivre notre ville.
Merci pour ces précisions, même exercice, Emmanuel Lecomte, vous êtes un peu en avance. Très rapidement, sur les animations de,
écoutez,
de la ville.
Écoutez, la fête de l'UC existe à l'UC, hein, c'est pas parce qu'il n'y a plus de corso fleuri, comme on dit, donc les chars fleuris, les majorettes, et la fanfare que la fête n'existe plus, c'est même plutôt un succès, et notamment nos feux d'artifice, puisqu'on vient d'un peu partout maintenant de l'agglomération pour voir notre feux d'artifice, ça c'est une réalité. Quand on parle de fête à l'ancienne, nous on a réfléchi sur ce que j'appelle une thématique vintage, il y a quelques années, donc à savoir effectivement faire ce que dit Monsieur Gauthier, à savoir une fête avec un corso fleuri, fanfare et majorette. Mais écoutez, c'est quasiment irréalisable, puisqu'il faut trouver les gens pour faire les chars. Il n'y a plus de volontaires. Les gens qui le faisaient ont vieilli. Aujourd'hui, il n'y a plus de volontaires. Et les associations ne sont pas forcément demandeuses. Il y a le discours de Monsieur Gauthier, mais je connais son lien avec le comité des fêtes. Donc à partir de là, effectivement, ils vont à un sujet. Maintenant, au niveau des animations, vous avez, l'UC est animé. C'est pas que le côté festif. Vous avez
plus de 300 associations à Lucé, dans le sport, dans la culture. Ça fonctionne très bien, que ça soit du foot, du basket, des arts martiaux. Il y a plein de possibilités, du badminton. Vous avez la culture. À Lucé, nous avons la chance d'avoir une excellente médiathèque. Nous allons ouvrir bientôt un musée numérique. On va être la première commune de Raloir à avoir un musée numérique.
Dreux, là aussi.
Non, non, c'est un Fab Lab. Non, non, mais attendez, nous, on est les premiers à l'avoir signé.
Bah, Dreux,
je me suis déplacé avec la préfète à l'époque. Et donc, nous allons donc avoir le musée numérique. Enfin, c'est la culture à portée de tout le monde. Et le sport également. C'est pas non plus que la fête de juin et que le marché de Noël. Le marché de Noël, j'en sais quelque chose. C'est nous qui sommes à l'origine, à la fin des années 90 du sujet.
Tout au long de l'année, donc, pour ces animations au niveau de la ville de Lucé. On arrive au terme de ce débat. On a débordé un peu. Merci à vous d'avoir participé à ce débat qui a pu se faire. Et avant de clôturer, messieurs, un mot pour les électeurs qui seront donc appelés à se prononcer ce dimanche. Emmanuel Lecomte, maire sortant, tête de liste, toujours ensemble pour Lucé. On vous écoute.
Mais écoutez, si les Lucéens veulent que la piscine de Lucé-Mainvilliers reste ouverte, si les Lucéens veulent que la restauration scolaire reste confectionnée par les employés communaux, si les Lucéens souhaitent que la gestion communale au niveau des finances soit bien assurée, non pas avec des apprentis sorciers qui pourraient nous faire le même coup que 2001-2008, toute allusion à une situation pouvant exister serait purement fortuite, et si les gens veulent un commissariat de police nationale, eh bien écoutez, votez toujours ensemble pour Lucé, votez le compte.
Florent Gauthier, qui conduit la liste pour l'avenir de Lucé, un mot de conclusion également.
Oui, je pense qu'en fait notre ville a un potentiel énorme et aujourd'hui les Lucéens en fait ont un choix décisif à faire ce 28 juin prochain. Donc s'ils veulent en fait voter pour une gestion qui est rigoureuse et qui d'ailleurs est responsable, hein, qui refuse l'endettement massif, je pense qu'il faut qu'ils votent pour l'avenir de Lucé. S'ils veulent en fait des projets, des propositions qui sont adaptées et surtout concertées et non pas décidées seules dans un bureau fermé, voter pour l'avenir de Lucé. S'ils veulent aussi une équipe d'un maire en fait qui agit en totale transparence, hein, parce que là aussi, hein, nous on ne supprimera pas les documents du PLU du site internet, et donc voter pour l'avenir de Lucé. S'ils veulent aussi une équipe et un maire disponible et accessible et aussi d'ailleurs soutenu par de nombreux élus de la majorité actuelle, eh bien voter pour l'avenir de Lucé.
On termine, Éric Lacroix, du Rassemblement National, tête de liste. Lucé, autrement, pour votre mot de conclusion, on vous écoute.
Moi, c'est très simple. Je suis le candidat du Rassemblement National. Derrière moi, j'ai des spécialistes. J'ai des gens qui sont hyper compétents. Donc, c'est des gens qui sont prêts à nous accompagner dans différentes problématiques, juridiques ou autres. La première chose que je vais faire dès que j'accéderai à cette fonction, c'est de réduire automatiquement, immédiatement, mon indemnité. Réduire l'indemnité des adjoints aussi et faire passer de 7 à 5 adjoints. Le but, c'est de réduire les dépenses, de faire des premières économies afin que ces économies aillent en direction des lycéens. Je n'ai pas signé la charte des citoyens pour le climat 28, tout simplement parce que je ne pouvais pas la signer, j'étais pas en capacité de la signer, je n'étais pas en charge de la ville de Lucé. Si demain je suis en charge de la ville de Lucé, je me rapprocherai de cette association qui est une association annexe du Pacte pour le climat. Je signerai l'engagement par rapport aux 16 éléments qui rentrent en cohésion avec mon programme. J'espère que tous les Lucéens qui ne se sont pas déplacés et qui sont proches du Rassemblement national ou qui adhèrent aux idées du Rassemblement national font l'effort de se déplacer. Je le rappelle simplement qu'en 2014, ils étaient 1,7 million déplacés. Donc nous pouvons faire la différence et nous pouvons renverser la table demain sans aucun problème.
Merci à vous trois pour cet échange sur Intensité. Merci d'être venus débattre dans nos studios.
Merci à vous, bonne soirée.
Et rendez-vous dès demain en direct sur notre antenne pour un nouveau débat. Et on s'intéressera cette fois à une ville du sud du département, Châteaudun. Vous retrouverez Julie Durand qui recevra les trois têtes de liste. Très bonne soirée, 20h16 sur Intensité.
Élection municipale 2020. Le grand débat en direct sur Intensité.